Voilà. Ça va? On peut y aller? Donc, après avoir vu bon, notre thème, évidemment, je le rappelle, ça a été aussi dit tout à l'heure, qu'il s'agit des fêtes d'automne, de printemps, pardon. Et donc, nous avons vu la première de ces fêtes de printemps qui était Pâques. Nous avons vu cette période intermédiaire entre ces deux fêtes, cette période de 49 jours plus 1, 50 jours, donc 50, c'est aussi un chiffre très symbolique dans la Bible. C'est le chiffre de l'achèvement, c'est aussi le chiffre du jubilé. Et donc, nous arrivons à la deuxième des fêtes de printemps, qui est la Pentecôte. Pentecôte se dit en hébreu « Shavuot », ça veut dire la fête des semaines, puisque l'on compte 7 semaines entre Pâques et Pentecôte, donc le 50e jour et la fête. Fête qui est en rapport d'abord avec le cycle de l'année agricole, comme c'est le cas pour toutes les fêtes. Et je voudrais développer 4 points ce soir. Premièrement, la fête de Pentecôte comme fête des moissons. Deuxièmement, la fête de Pentecôte comme fête du don de la Torah. Troisièmement, la fête de Pentecôte comme don du Saint-Esprit. Et enfin, la fête de Pentecôte comme la fête du retour. Comme je l'ai dit tout à l'heure pour Pâques, Shavuot ou Pentecôte est un des 3 régalim, un de ces 3 pèlerinages à pied, où on se rend donc à Jérusalem, vers le pied, comme on l'a dit tout à l'heure, alia la régale, pour aussi manifester la victoire du Seigneur. Et les régalimes sont toujours des fêtes joyeuses. Il y a, dans le calendrier biblique, des fêtes que l'on appelle les fêtes austères, ça veut dire des fêtes qui ne sont pas forcément joyeuses, la principale d'entre elles étant la fête du Kippour, où on est amené à s'humilier devant Dieu, donc ce n'est pas quelque chose qui est forcément très très réjouissant. Mais la fête de Pentecôte est une des fêtes les plus joyeuses qui soit. Pourquoi? Eh bien parce que c'est d'abord la fête de la moisson. Et cette période, elle est évoquée aussi dans un psaume, le psaume 126, qui fait partie de ces psaumes des montées, ces psaumes des pèlerinages. On montait à Jérusalem, en effet, pour les 3 régalim, par cortège, et on le faisait en chantant. Et il y avait un certain nombre de psaumes qui étaient particulièrement destinés à ces moments-là. C'est ce qu'on appelle « Shirei HaMa'alot » en hébreu. Alors, on traduit ça par « cantique des montées », « cantique des pèlerinages », « cantique des degrés », bref, toute cette même idée. Et il s'agit d'une série de 15 psaumes, à partir du psaume 120, qui sont en relation, justement, avec le pèlerinage. Et notamment, le psaume 126, qui fait partie de ces « cantiques des montées », ou des pèlerinages, est un cantique qui est particulièrement approprié pour la fête de Pentecôte. Nous aurons tout à l'heure l'occasion d'y revenir quand nous parlerons de la fête du retour. Mais là, il est question de moisson. Celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient chargé d'allégresse quand il porte ses gerbes. Le peuple d'Israël était un peuple d'agriculteurs et de très nombreuses images bibliques sont tirées de la vie agricole. Et dans la Bible, il y a toujours une différence qui est faite entre les semailles et les moissons. Les semailles sont toujours un temps difficile, un temps de larmes. On sème toujours dans les larmes. Et cette manière de semer est difficile parce que, d'une part, on gaspille le grain. Et puis, finalement, on ne sait pas ce qu'on va récolter. En restera-t-il quelque chose? Et vous avez ce thème aussi dans certaines paraboles de Jésus, la plus célèbre étant la parabole du semeur, précisément. Et cette parabole, elle évoque ce qu'est la première venue de Jésus. Ce sont les paraboles du royaume. Une parabole, c'est toujours quelque chose qui est en relation avec la venue du royaume. Et c'est une des raisons pour lesquelles on les appelle les paraboles du royaume, parce qu'elles commencent toutes par cette expression « le royaume des cieux est semblable à ». Et comme l'ont dit bien des exégètes, Jésus ne prêchait pas l'Église, mais il prêchait le royaume. Dans les quatre évangiles, il n'y a en tout et pour tout que deux mentions de l'Église. Deux fois seulement le mot « Église » est mentionné. La première fois, c'est lorsque Jésus dit à Pierre, après la fameuse confession de Césarée de Philippe, « Sur ce rocher que tu viens de confesser, à savoir que je suis le Messie, le Fils du Dieu vivant, je bâtirai mon Église. » Et la deuxième fois, c'est dans le discours de Matthieu sur la répréhension fraternelle, « Si ton frère ne t'a pas écouté alors qu'il a fauté contre toi, s'il n'a pas écouté les anciens que tu as pris avec lui, alors dis-le à l'Église. » En dehors de cela, il n'est jamais question de l'Église. Il est question du royaume et il est question d'Israël. Ce n'est qu'après, à partir du livre des Actes, puis évidemment dans les Épîtres, qu'il est question de l'Église. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pendant 2000 ans de christianisme, on a réussi, on a fait ce tour de force de lire les Évangiles comme si Israël en était totalement absent. Or, la prédication de Jésus nous est résumée par l'évangile de Matthieu en ces termes, qui était d'ailleurs la continuation de ce que Jean prêchait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et l'évangile de Matthieu en particulier, qui est celui qui met le plus l'accent sur le royaume, au point qu'on l'a appelé l'évangile du royaume, nous montre que le royaume de Dieu vient en deux temps. D'abord, il faudrait nous poser la question, le royaume de Dieu, c'est quoi? Alors là, il y a eu beaucoup de salive et d'encre qui a coulé pour essayer de définir ce qu'était cette notion du royaume de Dieu. Pour faire court une longue histoire, je reprendrai simplement la prière du Notre Père. La prière de notre Père, comme beaucoup de prières juives, que ce soit dans la Bible, par exemple le livre des psaumes, ou que ce soit dans le livre de prière des juifs qu'on appelle le Sidour, obéit à des règles prophétiques, des règles poétiques, pardon, qui ne sont pas les nôtres. Pour nous, une poésie, ce sont des vers qui ont le même nombre de syllabes et qui se terminent par une allitération. En hébreu, la versification, c'est de répéter deux fois de manière différente la même pensée. Et ça peut vous aider quand vous lisez la Bible, parce que si vous ne comprenez pas le premier terme, le deuxième terme peut vous éclairer. La prière du Notre Père correspond exactement à ce schéma-là. Il y a plusieurs demandes qui sont groupées par deux. Et notamment, une des demandes essentielles est la suivante. Que ton règne vienne. Le mot règne, c'est le mot grec basileia, que l'on peut aussi traduire par royaume. Que ton règne ou que ton royaume vienne. Par conséquent, la prière du peuple de Dieu, telle que Jésus nous l'a appris, c'est une prière pour que vienne le royaume. Et ensuite, le deuxième vers nous dit ceci, « Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et là, nous avons la définition de ce que Jésus considère comme le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est cette situation où la volonté de Dieu se fait sur la terre comme elle se fait dans le ciel. Le ciel, c'est l'endroit où la volonté de Dieu s'accomplit parfaitement. Et la volonté de Dieu, comme le dira l'apôtre Paul, elle est toujours bonne, agréable et parfaite. Et dans le ciel, il n'y a strictement aucune opposition à la volonté de Dieu, à cette volonté bonne, agréable et parfaite. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et à l'instant même, il y a de la lumière. Dieu dit à un ange, fais ceci, et sans l'ombre d'une hésitation, cet ange accomplit la volonté de Dieu. C'est pourquoi le ciel n'est que lumière, harmonie, bonheur, joie, paix, parce que la volonté de Dieu est toujours bonne. Malheureusement, depuis l'affaire de l'Éden, il n'en va pas de même sur la terre. Non pas, bien sûr, que ce qui se passe sur la terre échappe à la volonté de Dieu. Dieu reste le maître des événements, quoi qu'il arrive. Mais ce n'est pas toujours sa volonté parfaite qui s'accomplit. Et contrairement à ce qui se passe au ciel, où il n'y a strictement aucune opposition à la volonté de Dieu, sur la terre, il y a des oppositions à la volonté de Dieu. D'abord, il y a l'opposition de l'adversaire, de Satan et de ses démons. Et Satan est le prince de ce monde. Et vous vous souvenez de cet épisode où Jésus est confronté à Satan dans le désert, et notamment, au cours d'une des trois tentations qui nous est rapportée dans ces épisodes-là, il y a celui où le diable l'emmène sur une haute montagne et lui montre tous les royaumes de la terre en lui disant « Je te les donne, car ils m'ont été donnés, et je les donne à qui je veux. » Et Jésus ne conteste pas cette affirmation de l'adversaire. Oui, en effet, ces royaumes lui ont été donnés. Et par conséquent, c'est beaucoup plus la volonté de l'adversaire qui s'accomplit sur la terre que la volonté de Dieu. Et puis, il y a une autre source d'opposition sur la terre. C'est la volonté de l'homme. Parce que malheureusement, depuis l'affaire de l'Éden, dont nous avons parlé il y a un instant, l'homme a décidé de pactiser avec l'adversaire contre Dieu. Et le résultat de ces révoltes contre Dieu, eh bien, c'est que, contrairement au ciel, la volonté parfaite de Dieu ne s'accomplit pas sur la terre. Bien sûr, ça ne veut pas dire, encore une fois, je le répète, que ce qui se passe sur la terre échappe à la souveraineté de Dieu. Mais il y a une volonté parfaite de Dieu et il y a une volonté permissive de Dieu. Dieu permet des choses qu'il ne veut pas vraiment, mais qui, pour des raisons qui sont les siennes, il laisse faire. Il laisse Satan donner aux princes de ce monde les royaumes quand ils se prosternent devant eux, devant lui, etc. Mais un jour viendra où la prière que le Seigneur nous a enseignée s'accomplira. Et où la volonté parfaite de Dieu s'accomplira sur la terre comme elle s'accomplit dans le ciel, et ce jour-là, le royaume de Dieu sera venu. Ce jour-là, il n'y aura plus ni mal, ni souffrance, ni douleur, ni guerre, ni mort, ni maladie, ni tout ce qui aujourd'hui rend cette vie terrestre si pénible, parce que ces choses-là ne sont pas la volonté parfaite de Dieu. Et lorsque Jésus vient dans sa première venue, il vient justement aussi dans cette perspective de l'établissement du royaume. Et c'est la raison pour laquelle il disait « le royaume des cieux s'est approché ». Et ça, c'est une bonne nouvelle. L'évangile, ça signifie la bonne nouvelle. Et il nous est dit que Jésus allait de lieu en lieu, visitant les villes et les villages de Galilée, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Qu'est-ce que ça veut dire, la bonne nouvelle du royaume? Eh bien, c'est un texte qui est tiré d'Ésaïe 52, qui nous dit ceci, « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager de bonne nouvelle, les pieds du messager de paix, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne pour toujours. » Et Jésus s'identifie avec ce messager de paix. Celui qui annonce à Sion cette bonne nouvelle, « Ton Dieu règne », ça veut dire la venue du royaume, « Ton Dieu règne ». Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, il y a un problème que nous rencontrons aussi dans cet évangile de Matthieu, parce que cette bonne nouvelle, c'est d'abord Jean-Baptiste qui l'avait prêché. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et Jean avait eu cette parole, « Celui qui vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, le Messie, il a son vanne à la main, il nettoiera son aire, et il brûlera, il mettra le blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Ça veut dire, Jean annonçait un jugement qui était imminent. Il annonçait cet avènement du royaume dans toute sa perfection comme quelque chose qui était imminent. Et puis il désigne Jésus comme l'agneau de Dieu que nous avons vu tout à l'heure. Mais voilà que Jésus ne va pas exactement accomplir ce que Jean attendait. Et Jean pose une question à Jésus, alors qu'il est emprisonné lui-même, Jean, « Es-tu celui qui doit venir, le Messie, ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Qu'est-ce qui provoque ce doute dans l'esprit de Jean? Jésus va répondre par un certain nombre de paraboles, et justement cette parabole du semeur que nous avons évoquée. En effet, il semble que Jésus n'accomplisse pas le programme messianique tel que ses contemporains l'attendaient. Et il semble que le mouvement que Jésus a provoqué soit un mouvement qui soit destiné à aller à l'échec. Et Jésus dit oui, c'est vrai, il est comme un semeur qui est sorti pour semer. Et finalement, l'essentiel de cette semence va être perdu. Les trois quarts de la semence vont être perdus. Alors, justement, les disciples, Jésus les avertit. Effectivement, on a l'impression que l'œuvre de Jésus est un échec. Et c'est aujourd'hui le gros problème du peuple d'Israël. Jésus n'a pas réussi à instaurer le royaume de Dieu. Donc il ne peut pas être le Messie, et c'était la réflexion de Jean. Ce qu'il a semé, c'était formidable. Et le peuple d'Israël considère Jésus aujourd'hui, pour la plupart, comme un grand prophète d'Israël, mais pas comme le Messie, puisqu'il n'a pas établi le royaume de Dieu, et que finalement sa mission a été un échec. Et Jésus dit oui, ça ce sera le risque de penser que ce qu'il a semé est complètement perdu. Mais, dit Jésus, c'est une illusion. Parce que la semence qu'il a jetée dans ce monde où règne l'adversaire, la parole, c'est une parole. Et cette parole est tellement puissante qu'il suffira qu'elle rencontre un tout petit coin de bonne terre Ce n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose d'extraordinaire ni quelque chose de spectaculaire. Mais il suffit que cette semence tombe dans une bonne terre. Et au dernier jour, on verra une moisson extraordinaire qui dépassera tout ce que l'on peut imaginer. Un grain en portera 30, un autre 50 et même un autre 100. Donc, vous, mes disciples, qui allez devoir poursuivre cette œuvre des semailles, ne vous découragez pas. C'est vrai qu'il va y avoir des oppositions. C'est vrai que le prince de ce monde va tout faire pour empêcher la semence de croître. Il va envoyer les oiseaux du ciel pour la manger. Il va faire croître les épines pour l'étouffer. Il va même semer, nous voyons ça dans une autre parabole, livrer parmi le bon grain pour étouffer le bon grain. Et apparemment, il va avoir du succès. Mais ne vous laissez pas décourager, parce que le maître de la moisson sait ce qu'il fait. Et de toute manière, ces grains, quelques-uns seulement, pas beaucoup peut-être, une toute petite proportion, va finir par rencontrer une bonne terre. Alors, c'est vrai, le temps de la moisson, c'est un temps difficile. Le temps de la semaille, c'est un temps difficile. Et Jésus lui-même a semé dans les larmes. D'ailleurs, ça s'est terminé par la croix. Et les disciples, après lui aussi, Jésus les avertit, vous allez devoir semer dans les larmes. Il va y avoir des oppositions, il va y avoir des persécutions. On vous emmènera devant des rois, des gouverneurs, etc. Vous serez haïs à cause de mon nom par toutes les nations. Ça, c'est le lot. Et vous allez semer dans les larmes. Mais ne vous laissez pas découragé par les apparences. En fait, au temps de la fin, il y aura une moisson qui dépassera tout ce que vous pourrez imaginer. Et autant vous aurez versé de larmes dans cette première partie, autant vous serez dans la joie lorsque le temps de la moisson viendra. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Et la fête de Pentecôte, c'est la fête des moissons. C'est la fête où on se réjouit. Et vous avez un texte qui va dans le même sens, dans le livre du prophète Ésaïe, où il est dit « Tu rends le peuple nombreux et tu le réjouis, de telle sorte qu'il se réjouit d'une joie qui est celle de laquelle on se réjouit lors de la moisson. » La moisson était un temps aussi, le travail était quelque peu pénible, on n'avait pas de moissonneuse comme aujourd'hui, on faisait tout ça à la faucille. Mais c'est un temps de joie, parce qu'on voit le résultat de ses efforts, on voit la bénédiction de Dieu, et on va soudain se trouver dans l'abondance, on va se trouver dans la richesse, dans la prospérité. On est assuré d'avoir de la nourriture pour les temps qui viennent. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on a terminé la moisson, le 50e jour, quand la moisson est terminée, on vient se prosterner devant Dieu dans le temple pour le remercier d'avoir accordé cette moisson abondante et cette grande bénédiction. Maintenant, il est certain que là, il y a une réalité spirituelle qui nous montre ce que sont les devenus de Jésus. Jésus est venu une première fois il y a 2000 ans comme le semeur. Et comme nous disions il y a un instant, il a semé dans les larmes. Il a semé sans qu'apparemment il y ait beaucoup de résultats, au sein de son peuple en tout cas. Et puis, il est parti, on a l'impression que tout est resté aussi en état. Et une petite parabole que Jésus donne dans l'évangile de Marc, Marc est le seul à nous la rappeler, il nous dit « Le royaume de Dieu est semblable à de la semence qu'un homme a jetée dans son champ, qu'il veille ou qu'il dorme. eh bien, ça ne change rien à l'affaire. La semence va pousser, et puis elle va se développer. Et puis soudain arrive le temps de la moisson, on y met la faucille, parce que la moisson est mûre. Et Jésus dit, finalement, il n'y a pas à se préoccuper du résultat. Du résultat apparent, en tout cas. Il demande à ses disciples tout simplement de semer dans des difficultés. Et puis ensuite, quand la semence a été jetée, tu n'as plus rien à faire. C'est pas parce que tu vas te faire du souci, c'est pas parce que tu vas veiller que la semence va pousser plus vite. Il y a un temps. Il y a un temps prévu par Dieu. C'est la même pensée que celle dans la parabole du bon grain et de l'ivraie que j'évoquais tout à l'heure. Le royaume des cieux est semblable à de la semence qu'un homme a jetée dans un champ. Mais est ensuite venu son ennemi et il a semé l'ivraie. Et les serviteurs du maître lui disent, « Seigneur, quelqu'un est venu, ton ennemi est venu, et il a semé de l'ivraie dans ton champ. Est-ce que tu veux qu'on aille l'arracher ?»« Non, dit le maître, parce que vous risqueriez aussi d'arracher le bon grain. Laissez-les croître ensemble jusqu'au temps fixé. » Il y a un temps fixé. Et ce temps, eh bien, autant la première partie de la venue de Jésus, sa première venue, a été quelque chose de difficile, autant la deuxième venue sera un temps de joie. La moisson, c'est la joie. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Hier, avec ceux qui étaient avec nous, nous avons évoqué l'ascension, ou c'était avant-hier, je ne me souviens plus, et notamment cet ordre que Jésus donne concernant la Pentecôte à ses disciples, je vais en parler dans un instant, en disant « Vous allez recevoir cette puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Et nous avons une parole un peu semblable à la fin de l'Épître aux Romains, au chapitre 15, où l'apôtre Paul déclare ceci, « J'exerce, dit-il, de la part de Dieu, la fonction de serviteur de Dieu, en grec c'est le mot « liturgos », c'est une fonction cultuelle, une fonction de prêtre, pour que les païens soient une offrande agréable au Seigneur. » Paul aussi savait ce que c'était que de semer dans les larmes. Et Paul était un homme qui avait à cœur d'accomplir la mission de Jésus, aller jusqu'aux extrémités de la terre pour répandre cette bonne nouvelle. Et Paul était animé d'une véritable frénésie d'évangélisation parce que plus vite on aurait atteint les extrémités de la terre et plus vite le Seigneur reviendrait une deuxième fois et ce serait le temps de la moisson. Que de larmes Paul n'a-t-il pas versé ? Que de difficultés, que de souffrances, que de combats, il l'évoque dans ses épîtres. Mais il ne s'est jamais laissé décourager parce qu'il avait les yeux fixés sur le but. Il savait que, comme il le disait, ces légères afflictions du temps présent produisent, au-delà de toute pensée humaine, un poids éternel de gloire. Et qu'un jour, ces païens qu'il avait évangélisés, eh bien, pourraient être présentés au Seigneur quand viendrait le temps de la moisson, comme on offrait les moissons dans le temple. Et ça, il fait allusion à un texte d'Ésaïe 66, où il est dit qu'au temps de la fin, effectivement, les païens seront présentés au Seigneur comme une offrande. Et au moment de la fête de Pentecôte, je vous ai dit tout à l'heure que pour la fête de Pâques, on lit le Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques fait partie de ce que l'on appelle les cinq petits rouleaux de l'Écriture, c'est-à-dire des petits livres qui sont écrits, comme leur nom l'indique, sur des rouleaux de parchemin. Il y a cinq petits rouleaux, le Cantique des Cantiques, le livre de Ruth, le livre d'Esther, les Lamentations de Jérémie et l'Ecclésiaste. Et ces cinq rouleaux sont lus à l'occasion de fêtes, différentes fêtes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Cantique des Cantiques est lu à l'occasion de Pâques. Et à l'occasion de Pentecôte, on lit le livre de Ruth. Parce que le livre de Ruth est un livre qui se passe au moment de l'époque des moissons, dans cette période de l'Homère que nous avons évoquée tout à l'heure. Et là, le livre de Ruth est aussi un livre qui oscille entre ces deux aspects, les larmes et l'allégresse. Au début du livre, il y a une famine à Bethléem. Et cette famine provoque l'exil de la famille d'Élimélech, qui va se rendre dans le pays de Moab, où toutes sortes de malheurs vont l'atteindre. Et puis, il y a un deuxième temps, où Naomi, qui a perdu ses deux fils et son mari, qui reste seule avec ses deux belles filles, apprend que Dieu a visité son peuple en lui donnant du pain. Et elle décide de revenir à Bethléem. Et elle arrive à Bethléem au début de la période de l'Homère, c'est-à-dire au début de la moisson des orges. Et là, nous voyons quelque chose d'assez extraordinaire, cette joie qui est celle des moissonneurs, de Boaz en particulier. Et c'est vraiment cette atmosphère joyeuse que nous trouvons dans le livre de Ruth qui fait que l'on va le lire justement à cette période de Pentecôte. Naomi et Ruth, quand elles arrivent, ne participent pas du tout à cette joie. Et Naomi déclare, Naomi en hébreu, ça veut dire celle qui est agréable. Et quand on la voit revenir, vieillie, amaigrie, attristée, les gens de Bethléem s'interrogent, est-ce bien là Naomi, la Naomi que nous avons connue ? Elle répond, ne m'appelez plus Naomi, l'agréable, mais appelez-moi Mara, la mère, parce que le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Donc, elle ne participe pas à cette joie. Mais voilà, le Seigneur va changer cette tristesse en joie. Et le livre de Ruth nous montre cette extraordinaire direction de Dieu qui se fait d'une manière qui est incompréhensible à l'homme, qui est incompréhensible aux intéressés eux-mêmes dès le début. On a l'impression que c'est le hasard. Et là, nous retrouvons ce que nous disions tout à l'heure. La volonté de Dieu, le royaume de Dieu ne s'accomplit pas pleinement sur la terre. Et pourtant, Dieu conduit les choses à l'insu même des hommes. Et Naomi n'a pas d'autre solution que d'envoyer sa belle-fille Ruth glaner, c'est-à-dire accomplir le travail des pauvres, ce qui est un travail extrêmement pénible. Et par le plus grand des hasards, sans qu'elle le sache, Ruth va aller glaner dans le champ de Boaz, qui est un parent de Naomi et de son défunt mari Élimélech. Et va s'enclencher tout un processus qui va faire que la tristesse de Naomi va se transformer en joie. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Dans les textes de Qumran, les manuscrits de la Mer Morte, il y a quelques années de cela, on a découvert un commentaire de ce livre de Ruth. Et on l'a fait parce que le livre de Ruth était, comme nous l'avons dit tout à l'heure, un livre qu'on lisait à la Pentecôte, et pour des raisons que je vais vous exposer dans un instant, la fête de Pentecôte était pour les Esséniens la plus grande fête de l'année. Et c'est pourquoi ils tenaient le livre de Ruth en haute estime. Et là, il y a un commentaire du livre de Ruth où il nous est dit ceci. C'est que Ruth, donc, glane avec les serviteurs de Boaz, et Boaz est ému de compassion pour cette jeune femme. Et lorsque vient l'heure du repas des moissonneurs, Ruth n'ose pas s'approcher, et Boaz lui dit, « Mais si, approche-toi, assieds-toi avec les moissonneurs. » Et le commentaire dit quelque chose de très intéressant. Il nous dit « Ruth était une non-juive, une Goya, comme on l'appelle, et les moissonneurs étaient des juifs. » Et voilà que la non-juive vient s'asseoir à côté des juifs. Parce que le livre de Ruth est une prophétie de ce qui se passera au temps de la fin, au moment non pas de la moisson annuelle, mais de la grande moisson qui viendra au temps de la fin. Et là, juifs et non-juifs seront ensemble, l'un à côté de l'autre. Et il n'y aura plus de différence entre les uns et les autres. Approche-toi et assis-toi à côté des moissonneurs. Et trempe ton pain dans le vinaigre. Ah, là aussi, il y a quelque chose d'intéressant. Et le commentaire nous dit ceci. Elle mangea, c'est pour ce monde-ci. Elle fut rassasiée, c'est pour le monde futur. Le monde qui vient. Et elle mangea du pain trempé dans le vinaigre. Et il y a un texte dans le livre des psaumes où il est question de vinaigre. C'est ce psaume où il est dit « Ils m'ont abreuvé de vinaigre ». Ce texte que Jésus a cité quand il était sur la croix. Et dans la tradition juive, ce psaume et la mention du vinaigre évoquent ce qu'on appelle en hébreu « révélé Mashiach », les souffrances du Messie. Pour établir son règne, disent les rabbins, le Messie doit souffrir. Et vous retrouvez ça aussi dans le discours de Jésus avec les disciples qui allaient à Emmaüs le soir de Pâques. Hommes sans intelligence, lents à comprendre et à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses avant d'entrer dans sa gloire ? Il faut donc que le Messie passe par les souffrances. Il faut qu'il soit abreuvé de vinaigre. Et après seulement, il convoquera ce festin eschatologique dont la fête de Pâques était aussi une anticipation, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et voilà ce que nous dit le commentaire. Mais pour pouvoir participer à ce festin dans le monde futur, elle fut rassasiée. C'est pour le monde futur, pour le festin eschatologique. Mais elle mangea, c'est pour ce monde-ci. Ça veut dire qu'il faut déjà manger dans ce monde le pain du ciel, le pain de demain. Et là, je vous renvoie à nouveau au Notre Père, à la prière du Notre Père. Au centre du Notre Père, il y a le pain. Et là, nous avons un verset très, très difficile à traduire. « Donne-nous aujourd'hui », alors on traduit « notre pain quotidien » ou « notre pain de ce jour ». En grec, ça vous donne « ton arpon humon, ton epiousion ». Alors, littéralement, ça se traduit de la manière suivante. « Ton arpon humon, notre pain, ton epiousion, celui qui vient ». Le pain, notre pain, celui qui vient, donne-le-nous aujourd'hui. C'est bizarre comme expression. Ce mot, epiousion en grec, c'est ce qu'on appelle un apax, c'est-à-dire que c'est un mot qui n'apparaît qu'une seule fois dans toute la Bible et dans toute la littérature grecque. On ne connaît aucun mot semblable ailleurs. On sait simplement qu'il vient de la racine venir. Donc le pain qui est venant, littéralement. Alors, la plupart des traducteurs n'ont pas compris cette expression, c'est pourquoi ils l'ont rendue comme on le trouve. Jérôme, Saint Jérôme, qui a traduit la Bible en latin au IVe siècle, s'est heurté, comme tous les traducteurs, à cette difficulté. Mais il avait une chance que nous n'avons plus. Il avait encore à sa disposition l'original hébreu de Matthieu, et il est allé le consulter. Et voilà ce qu'il a trouvé. Alechem shelanu, alechem shel machar, ten lanu ayom. Le pain, notre pain, Le pain de demain, donne-le-nous aujourd'hui. Le pain de demain, c'est quoi? C'est le pain du ciel. C'est la parole de Dieu. Ça veut dire, quand nous faisons cette prière au Seigneur, en relation avec la venue du royaume, puisque ça suit juste le royaume, nous sommes encore dans ce monde-ci, sous le royaume de Satan, le prince de ce monde. Mais parce que nous sommes tes enfants, parce que nous sommes déjà des fils du royaume, donne-nous aujourd'hui, dans ce monde tel qu'il est, dans ce monde qui est encore sous la souveraineté de l'ennemi, donne-nous quelque chose, les bienfaits du royaume qui viendra demain. Donne-nous de manger aujourd'hui le pain que nous mangerons dans ton royaume quand tu seras dans ta gloire et que tu partageras justement ce pain du ciel dans le banquet du festin des noces de l'agneau. On peut déjà goûter quelque chose de ce pain aujourd'hui. Voilà ce que Jésus veut dire. Et les commentateurs de Qumran ont compris cela aussi. Elle mangea dans ce monde-ci. Mais ils ajoutent quelque chose d'important. On peut déjà aujourd'hui manger le pain du royaume de Dieu, le pain du royaume de demain, dans ce monde. Seulement, il sera trempé dans le vinaigre. Ça veut dire qu'il sera trempé dans les souffrances du Messie. Et il faut accepter de, aujourd'hui, manger le pain du ciel, mais avec le vinaigre de ce monde, trempé dans le vinaigre. Ça veut dire trempé dans les souffrances du Messie, dans les souffrances de Jésus. Et ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et Paul nous parle de la communion des souffrances de Jésus. Il dit, je veux connaître le Messie et la puissance de sa résurrection. Ah, c'est formidable. Nous voulons tous connaître la puissance de la résurrection de Jésus. Ah, que la puissance de la résurrection de Jésus se manifeste dans nos vies. Alors, les morts ressusciteront, les malades seront guéris, les miracles extraordinaires auront lieu. Et on veut tous ça, n'est-ce pas? Il y a une condition. Et la communion de ses souffrances. Et ça, on le veut un peu moins. On voudrait bien connaître la puissance de la résurrection, mais la communion des souffrances de Jésus, c'est autre chose. Trempe ton pain dans le vinaigre. Et celui qui accepte les souffrances du Messie dans cette vie, dans ce monde, sera assuré d'avoir sa part au festin des noces de l'agneau, au festin eschatologique. Voilà ce qu'ont dit les commentateurs de Qumran. Et ensuite, le commentaire continue et nous dit ceci. Elle mangea, elle fut rassasiée, donc pour le monde qui vient, et puis elle se leva pour glaner. Et là, les commentateurs y ont vu quelque chose, une image très intéressante. Ruth est dans la tradition juive, la première non-juive qui se convertit au judaïsme. Elle est le prototype des prosélytes. Et Boaz lui dit quelque chose d'important quand elle vient se prosterner devant lui. Il dit « Béni sois-tu de l'Éternel, ma fille ». Par l'Éternel, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Sous les ailes du Tout-Puissant. Elle est, à plusieurs reprises, cette expression revient dans le livre de Ruth, sous les ailes du Tout-Puissant. Venir sous les ailes de la Shrina, c'est-à-dire de la présence de Dieu, du Saint-Esprit, dans la tradition juive, c'est se convertir en quelque sorte. Et Ruth est la première convertie, la première prosélyte, mais pas la dernière. Elle mangea, elle fut rassasiée, et elle se leva pour glaner, c'est-à-dire pour faire à son tour des prosélytes, pour évangéliser, de telle sorte, et voyez-vous, le peuple d'Israël a su que la Torah serait répandue à tous les peuples. C'est écrit, par exemple, dans le chapitre 2 du livre du prophète Ésaïe, « Car de Sion sortira la Torah ». Et nous allons voir tout à l'heure que la Pentecôte est aussi le prototype du pèlerinage eschatologique des nations au temps de la fin qui, comme le dit le chapitre 2 du prophète Ésaïe, après avoir transformé leurs instruments de guerre en instruments de paix, diront « Montons à Jérusalem, à la maison du Dieu de Jacob, pour qu'il nous enseigne ses lois et que nous marchions dans ses statuts. » Mais comment les nations pourront-elles avoir envie au temps de la fin de monter à Jérusalem pour étudier la Torah si elles n'ont jamais entendu parler de la Torah ? Donc il faut qu'il y ait un mouvement de Jérusalem vers les nations et que toutes les nations de la terre puissent entendre la parole de Dieu, la Torah, pour qu'au temps de la fin, ces mêmes nations aient envie de revenir à Jérusalem pour en savoir plus en ce qui concerne les choses de Dieu. Et au temps de la fin, on dit les sages, il y aura une moisson de païens qui, comme Ruth, viendront se réfugier sous les ailes du Tout-Puissant, sous les ailes de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes de la Shrina, ou sous les ailes du Saint-Esprit, si vous préférez. Et voyez-vous, la moisson dont il est question dans ce texte n'est pas seulement une moisson matérielle, mais c'est une moisson spirituelle. Et c'est exactement ce que Paul rappelait tout à l'heure quand il disait qu'il fait office de prêtre pour que, au temps de la fin, il puisse présenter les nations dans le temple de l'Éternel comme cette moisson, comme cette offrande au Seigneur. Et Ruth en est justement le prototype. Alors, ça, c'est le premier point. Donc, la Pentecôte comme fête des moissons. Deuxième point, la Pentecôte comme don de la Torah. Par conséquent, comme don de l'Alliance. J'en ai un peu parlé tout à l'heure, quand j'ai parlé de ce mariage entre Dieu et Israël qui a eu lieu sur le mont Sinaï. Mais là, je voudrais reprendre un autre texte très intéressant dans le livre des Psaumes, au chapitre 68, qui évoque justement, qu'on lit à l'occasion de la Pentecôte, et qui évoque cet événement. Quand nous lisons le récit de l'Exode, nous nous rendons compte que c'est 50 jours après la sortie d'Égypte que le peuple d'Israël a reçu la Torah, donc le jour de la Pentecôte. Et la Pentecôte est non seulement la fête des moissons, mais la fête aussi du don de la Torah. Et voici ce qui nous est dit dans ce psaume 68, qui est un long psaume, mais qui nous retrace justement cet événement de l'apparition de Dieu sur le mont Sinaï. Et voici ce que nous lisons, voyons. Je retrouve le texte. Voilà. Le Seigneur dit une parole et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Alors, c'est un texte qui est souvent très, très mal compris parce que c'est un texte difficile d'abord. Et là, il faut avoir recours au Midrash, c'est-à-dire à l'interprétation des rabbins sur ce texte. Dans le récit du don de la Torah, il nous est dit que le peuple dans son ensemble, a vécu une expérience tout à fait extraordinaire. Tout le peuple, du plus grand jusqu'au petit, a entendu la voix du Seigneur, une voix audible, prononcée à haute et intelligible voix, le décalogue, les 10 paroles. Et ce spectacle était tellement terrible, nous est-il dit, que le peuple ne pouvait plus le supporter. Et qu'il a dit que nous n'entendions plus cette voix, sinon nous allons mourir. Et tout à l'heure, nous, à table avec votre pasteur, il évoquait une petite plaisanterie, mais qui est basée sur un midrash, qui se termine un peu différemment de ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Il y a dans ce midrash cette idée que finalement Dieu a présenté la Torah à tous les peuples, successivement. Et il a présenté la Torah aux Assyriens. Est-ce que vous voulez recevoir la Torah ? Et les Assyriens ont dit, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah ? est écrit « Tu ne commettras pas de meurtre ». Et les Assyriens étaient un peuple barbare et cruel. Ils ont dit « si c'est comme ça, nous ne voulons pas de la Torah ». Ils ont demandé, alors Dieu a présenté aux Égyptiens la Torah. Ils ont dit « Est-ce que vous voulez accepter la Torah ?» Les Égyptiens ont dit « Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah ?»« Tu ne feras pas d'image, tu n'auras pas d'idole ». Et les Égyptiens étaient un peuple qui avait de nombreuses images, de nombreuses idoles et de nombreuses représentations. Alors ils ont dit, si c'est comme ça, on ne veut pas de la Torah. Alors ils ont demandé, Dieu a demandé aux Cananéens, est-ce que vous voulez de la Torah ? Et les Cananéens ont dit, mais qu'est-ce qui est écrit dans la Torah ? Il est écrit, tu ne commettras pas d'adultère. Et comme les Cananéens étaient des peuples tout à fait dépravés, ils ont dit, si c'est comme ça, nous ne voulons pas de la Torah. Ils ont demandé... Dieu a demandé aux Amalécites, est-ce que vous voulez de la Torah ? Et les Amalécites ont dit, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah ? Tu ne commettras pas de vol. Or, les Amalécites vivaient, comme les Bédouins, essentiellement de rapines. Ils ont dit, non, nous ne voulons pas de la Torah. Et Dieu a présenté la Torah à Israël. Il a dit, est-ce que vous voulez de la Torah ? Et Israël n'a pas demandé à Dieu ce qu'il y avait dans la Torah. Il a dit, nous la ferons. Et nous l'écouterons. Mais cette Torah, elle est pour tous les peuples. Et c'est une des raisons pour lesquelles la Torah a été donnée dans le désert du Sinaï. Et on a posé la question aux sages en disant, mais pourquoi la Torah n'a-t-elle pas été donnée dans le pays d'Israël ? Pourquoi, par exemple, n'a-t-elle pas été donnée sur le mont Sion, à Jérusalem ? Et la réponse, parce que le désert à cette époque-là était un no man's land, il n'appartenait à personne. Ça veut dire, Dieu a donné la Torah à Israël, c'est vrai, parce qu'Israël est le seul peuple qui l'a accepté, mais au travers d'Israël, il l'a donné à tous les peuples. C'est quelque chose qui concerne toutes les nations, ce n'est pas la propriété exclusive d'Israël. Si la Torah avait été donnée sur la terre d'Israël, Israël aurait pu dire, ah ça c'est à moi. Mais il ne peut pas dire. Et maintenant, c'est pour toutes les nations. Et maintenant, il y a encore autre chose. Selon la tradition, non seulement le peuple a entendu les 10 paroles en hébreu d'une manière intelligible, mais au fur et à mesure, chaque fois qu'une des 10 paroles était prononcée par Dieu, elle était immédiatement traduite dans les 70 langues des 70 nations. Et il y avait sur la montagne du Sinaï des langues, 70 langues, qui étaient comme des langues de feu, qui étaient ces messagères de bonnes nouvelles qui allaient jusqu'aux extrémités de la terre, vers toutes les nations pour leur annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Et vous voyez ici, comment petit à petit on se rapproche de l'événement de la Pentecôte tel qu'il est décrit dans le chapitre 2 du livre des Actes. Donc ici, les langues, il y avait du feu, il y avait des tonnerres, il y avait des éclairs, il y avait toutes sortes de manifestations que vous allez retrouver dans le chapitre 2 du livre des Actes. Et c'est la raison pour laquelle tous les ans, on se souvenait de cette alliance qui devait être renouvelée. Dieu a fait alliance avec le peuple. Et comme je vous disais tout à l'heure, les gens de Qumran en particulier étaient des gens qui faisaient de la fête de Pentecôte la fête essentielle de l'année. Parce qu'ils prenaient à la lettre, ce que nous avons dit tout à l'heure, la promesse d'une nouvelle alliance. Ils étaient conscients que le peuple n'avait pas été fidèle à Dieu, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Et eux voulait être le reste fidèle d'Israël, ça veut dire le peuple qui allait entrer dans cette nouvelle alliance. Et chaque fois que revenait la fête de Pentecôte, chaque année, ils attendaient à ce que Dieu refasse dans l'endroit où ils se trouvaient, dans le désert, les mêmes miracles que ce qu'il avait fait sur le Sinaï pour donner cette nouvelle alliance. Et ils attendaient la réalisation de cette nouvelle alliance. Ils n'ont pas vu ces réalités-là, bien que certainement beaucoup d'entre eux se sont convertis ensuite au christianisme. C'est ce que pensait en particulier le professeur Yadin, Et notamment, il pense que l'Épître aux Hébreux, ce qu'on appelle l'Épître aux Hébreux, est en réalité une lettre à des Esséniens qui se sont convertis au christianisme. Bon, ça, c'est un autre problème. Et maintenant, j'arrive au troisième point. La fête de Pentecôte comme fête du don du Saint-Esprit. Il y a donc ici cette idée que Dieu, au temps de la fin, fera une nouvelle alliance et que par conséquent, les mêmes phénomènes et les mêmes miracles se reproduiront. Et se reproduiront non seulement pour que le peuple d'Israël entre de nouveau dans une alliance renouvelée avec le Seigneur, mais également pour que toutes les nations soient touchées par cette alliance, pour qu'il y ait cette grande moisson dont nous avons parlé tout à l'heure, dont la fête de Pentecôte était l'anticipation. Et la nouvelle alliance, jusqu'à aujourd'hui la tradition juive, elle est en relation avec la personne du roi David. David, qui est le dépositaire d'une nouvelle alliance que Dieu a faite avec lui et avec sa descendance, avec sa maison, et notamment la promesse du Messie, que Dieu ne permettrait jamais que le trône de David soit vide, mais qu'il ferait asseoir son descendant sur son trône. Alors évidemment, le premier descendant, c'était Salomon, mais dans la tradition juive, on a assez vite considéré que le descendant qui s'assierait sur le trône de David ne serait autre que le Messie. Vous retrouvez ça aussi dans l'annonce qui est faite à Marie par l'ange Gabriel au moment de la naissance de Jésus, « Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il règnera sur la maison d'Israël à perpétuité. » Et à l'époque de la Pentecôte, à l'époque de Jésus, à l'époque des Actes des Apôtres, si vous le voulez, à l'occasion du pèlerinage de Pentecôte, il y avait une visite qui était indispensable, c'était d'aller se recueillir sur le tombeau du roi David. Parce que selon une vieille tradition, c'est le jour de Pentecôte que David est mort. Et vous vous souvenez que dans le discours de Pierre, le jour des Actes, dans le livre des Actes, il est justement question du tombeau de David. Pierre cite le psaume 16, « Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Et il déclare, c'est David qui a écrit ça. Or, David, le patriarche, il est mort. Et son tombeau existe encore aujourd'hui. C'est tellement vrai que vous tous, les pèlerins qui êtes rassemblés ici à Jérusalem, vous en venez de ce tombeau. Vous êtes allés vous recueillir sur le tombeau du roi David. Donc, ce n'est pas de lui qu'il a pu parler quand il a dit qu'il ne verrait pas la corruption. C'était donc celui qui devait s'asseoir sur son trône, c'est-à-dire Jésus. Et en même temps, évidemment, David est l'homme de l'Esprit. C'est par l'Esprit de Dieu qu'il a pu écrire les psaumes. C'est par l'Esprit de Dieu qu'il a été un roi prophète. Et par conséquent, la fête de Pentecôte, à cause de David, est une alliance du renouveau de l'Esprit. Dans la tradition juive, depuis l'époque du retour de l'exil, et notamment depuis le dernier des prophètes, Malachi, le Saint-Esprit a été retiré d'Israël. La voix prophétique s'est tue et le ciel a été fermé. Et selon la tradition, elle le sera jusqu'à ce que Dieu donne cette alliance nouvelle. Et quand l'alliance nouvelle sera donnée, alors à nouveau, comme ça a été le cas sur le mont Sinaï, le Saint-Esprit descendra sous différentes manifestations et notamment sous la forme du feu. Le Saint-Esprit, c'est le feu. Et on attendait l'accomplissement de la prophétie de Joël. « Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Et cette venue du Saint-Esprit sera en relation avec la manifestation de la nouvelle alliance. Et le jour de la Pentecôte, quand ils étaient dans cette chambre haute, d'un seul accord, comme nous l'avons vu tout à l'heure, eh bien, les mêmes phénomènes que ceux qui se sont produits sur le mont Sinaï se reproduisent. un bruit, un vent impétueux et des flammes de feu, des langues de feu qui se posent sur chacun d'eux. Et ils se mettent à parler dans les langues des nations qui sont rassemblées pour la fête de Pentecôte, pour le pèlerinage de Pentecôte, de telle sorte que chacun les entend parler dans sa langue. C'est exactement le renouveau du miracle du psaume 68 que nous avons lu il y a un instant. Ça veut dire que comme les gens de Qumran l'attendaient, cette Pentecôte-là, cette année-là, est le commencement de cette nouvelle alliance. Cette fois-ci, l'alliance nouvelle qui avait été scellée par le sang de Jésus 50 jours plus tôt au moment de la Pâque, maintenant est en train de se réaliser et de s'accomplir. Et elle doit s'accomplir à Jérusalem. Jésus avait dit à ses disciples, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Pourquoi ? Parce que, comme l'avait dit le prophète Ésaïe, de Sion sortira la Torah. Et l'Évangile est la nouvelle Torah du Messie. Et grâce à cette puissance du Saint-Esprit qu'ils viennent de recevoir, les disciples vont être témoins jusqu'aux extrémités de la terre pour engranger cette moisson. Il va y avoir ce temps de semaille difficile dont nous avons parlé tout à l'heure, et pour les apôtres et pour leurs successeurs, c'est-à-dire pour vous et moi, c'est quelque chose qui va être pénible, c'est quelque chose qui va être difficile, même si la puissance du Saint-Esprit est là, justement, pour nous donner la victoire, mais il n'en demeure pas moins vrai que ça reste un temps difficile, un temps de larmes. Mais le but, c'est justement de faire comme Ruth, manger en trempant son pain dans le vinaigre, dans les souffrances du Messie, mais manger déjà le pain de demain, pour avoir la certitude que nous le mangerons au temps de la fin, dans le royaume de Dieu, juifs et non-juifs, unis ensemble. Et par conséquent, ici, nous retrouvons ce que Jésus disait aussi à ses disciples dans l'histoire de la Samaritaine, « Levez les yeux, car les champs déjà sont blancs pour la moisson. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas semé, d'autres ont semé avant vous et vous êtes entrés dans leur travail. Il y a un temps où d'autres ont semé avec larmes, mais où ceux qui viendront dans les derniers temps, les ouvriers de la 11e heure, moissonneront avec chant d'allégresse. Et voyez-vous, tout commence par Jérusalem. Il y a un mouvement centrifuge de Jérusalem vers les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Et j'arrive à mon dernier point maintenant, la fête de Pentecôte comme fête du retour. Nous avons évoqué le psaume 126 qu'on lit au moment de la Pentecôte. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de joie et notre langue de chant d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses, nous sommes dans la joie. Ramène Éternel nos captifs, kafikim banegev. Alors on traduit en général cette expression par comme des ruisseaux dans le désert. Mes petits-enfants qui habitent dans le désert depuis plusieurs années, qui commencent à lire la Bible en hébreu, quand ils lisent les traductions françaises, ils rigolent. Des ruisseaux, vous savez, des petits ruisseaux là, comme ça, bien gentils. Non, afikim, c'est des torrents. Des torrents impétueux, des torrents qui sont absolument irrésistibles. Rien ne peut les arrêter. Ça veut dire quand le mouvement de retour sera amorcé au dernier temps, rien ne pourra l'arrêter. Ramène nos captifs comme des torrents dans le désert. Et le mouvement de retour au temps de la fin sera tel que toute la volonté des hommes, toutes les puissances de Satan, les puissances de l'adversaire qui se déchaîneront, ne pourront pas l'empêcher. Et ce sera la joie messianique. Les captifs reviendront dans la joie. D'abord, les captifs d'Israël, et leur retour sera comme une moisson. Dieu est en train de moissonner son peuple des quatre extrémités de la terre. Dieu est en train, en particulier, d'effectuer une moisson ici en France, à l'heure actuelle, grâce à l'antisémitisme qui est en train de monter dans notre pays, de telle sorte que plus de 50% des Juifs de France veulent immigrer en Israël. Et voyez-vous, ici, nous sommes dans ce mouvement irrésistible. Et ce mouvement, il est accompli par le Saint-Esprit. Mais ce dernier jour, cette moisson sera aussi un tri entre les justes et les méchants, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et quand Israël sera restauré, ce sera le jugement des nations. Ce sera cette grande séparation dont Jean-Baptiste avait parlé. Il séparera la paille d'avec le bon grain. Le bon grain, il l'engrangera dans les greniers. La paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Il a son vanne à la main, il nettoiera son air. Mais ce n'est pas seulement le peuple d'Israël qui revient aux sources, mais c'est toutes les nations aussi. Il y a eu un mouvement centrifuge de Jérusalem vers les nations, et il y a ensuite un mouvement centripète des nations vers Jérusalem. Et aujourd'hui, nous vivons un temps très particulier, où pendant des siècles, le christianisme s'est éloigné de Jérusalem. Il a oublié Jérusalem, contrairement à ce qu'avait dit le prophète. « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais. » Et une grande partie des problèmes de l'Église actuelle aujourd'hui, c'est précisément parce qu'on a oublié Jérusalem. Or, le psaume 47 nous dit ceci, de toutes les nations, il est dit, dans telle nation, un tel y est né. Mais de Jérusalem, il est dit, tous y sont nés. Car ceux qui chantent et ceux qui dansent disent, toutes mes sources sont en toi. Et comme me disait une amie juive qui habite la région de Genève, quand nous parlions de la crise actuelle dans nos pays, elle nous disait, le seul moyen pour vous, chrétiens, de survivre, c'est de revenir aux sources, à vos sources juives, à Jérusalem. Et le mouvement est celui dont parlait justement le prophète Ésaïe quand il évoquait ce pèlerinage des nations au dernier jour, à Jérusalem. Ce n'est pas seulement le peuple d'Israël qui est invité à ce pèlerinage de Pentecôte, mais c'est toutes les nations. Il faut revenir aux sources, il faut revenir à ces sources qui sont à Jérusalem. Et c'est le seul moyen de survie du christianisme aujourd'hui. Retrouver ses racines, retrouver les sources. Montons à la maison de l'Éternel pour qu'il nous enseigne ses lois et que nous marchions dans ses statuts, car de Sion sortira la Torah et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et c'est précisément ce retour aux sources qui fera que les nations transformeront leurs armes de guerre en armes de paix, en instruments de paix, qu'une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et que l'on n'apprendra plus la guerre. Que ton règne vienne. Alors, les premiers ont vécu dans les larmes, ceux qui ont semé, les apôtres, Jésus lui-même, les martyrs. Ils ont semé sans voir de fruits, en ayant l'impression que leur travail était vain. Mais aujourd'hui, le Seigneur, comme il disait à ses disciples, nous envoie moissonner là où nous n'avons pas semé, où d'autres ont travaillé avant nous, pour que celui qui sème et celui qui moissonne au temps de la fin, finalement se réjouissent ensemble. Et nous assistons à la deuxième partie de la venue du royaume. La première partie a été un temps difficile, un temps de semaille. La deuxième partie est le temps de la moisson. Le temps de la moisson est arrivé et par conséquent, c'est le moment d'entrer dans ce travail immense dont Jésus disait « Les moissonneurs sont peu nombreux. Priez le Père pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. » Et quand la moisson viendra, ce sera ce mouvement irrésistible de retour aux sources. Ce sera ce mouvement où une joie éternelle remplira le cœur de ceux qui seront entrés dans ce grand mouvement de l'Esprit de Dieu. Ce mouvement, eh bien, c'est ce mouvement de retour aux sources. C'est ce mouvement de la grande moisson qui, autant quand Jésus reviendra, lui sera offerte. Et nous serons nous-mêmes offerts au Seigneur. Comme étant justement ce que les apôtres ont pu récolter, comme Boaz avait pu récolter Ruth. Alors, assieds-toi avec les moissonneurs. Assieds-toi avec le peuple d'Israël. Mange aujourd'hui le pain de demain, trempé dans le vinaigre des souffrances du Messie, parce qu'un jour, tu le mangeras dans le royaume du Père, au festin des noces de l'agneau. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci pour cette grâce que tu nous as faite, nous qui n'étions pas ton peuple, d'avoir envoyé ces semeurs qui, dans les larmes, ont semé, Seigneur, pour qu'aujourd'hui nous puissions, nous, être semblables à ces germes de blé, que tu t'apprêtes à moissonner, Seigneur, au moment de ton retour, dans cette grande moisson qui va intéresser toute la terre entière, quand les anges sonneront du grand chauffard et que les élus seront rassemblés des quatre extrémités de la terre dans ton royaume, engrangés dans tes greniers. Seigneur, tu nous appelles à être de cela, d'être membres de cette moisson, mais tu nous montres aussi les conditions. Seigneur, que nous asseyons à côté des moissonneurs, que nous trempions le pain de demain, ce pain du royaume, ce pain que nous te demandons de nous donner aujourd'hui, comme tu nous invitais à le faire, pour que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais que nous acceptions de le tremper dans les vinaigres de tes souffrances, pour qu'un jour, Seigneur, nous puissions être à table avec toi dans ton royaume et nous réjouir de cette joie indicible, de cette joie de la moisson pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen.